Voilà, nous prenons la parole dans Matthieu 19, du verset 13 au verset 14. Matthieu 19, du verset 13 au verset 14. La Bible dit, Matthieu 19, alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et y partit de là. Nous lisons Matthieu 18, du verset 1 au verset 6. Matthieu 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Nous lisons le psaume 131. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes est trop élevé pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous voyons l'unité de la parole. Dans le Nouveau Testament, nous voyons le Seigneur qui dit, si quelqu'un ne ressemble pas à un enfant, eh bien, il est exclu du royaume de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons David, l'un des hommes les plus spirituels, dire que son âme est comme l'âme d'un enfant sevré auprès de sa mère. Et nous constatons l'importance d'être comme un enfant auprès du Seigneur. David le dit, Jésus le dit. Il dit, laissez les enfants venir, parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Et il dit, si vous ne devenez pas humble comme les enfants, eh bien vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous allons parler de la nature d'enfant, parce que Dieu veut que cette nature s'exprime dans tous les convertis, que nous soyons comme des enfants. C'est ça l'objectif du Seigneur, dans notre relation avec lui, que nous vivons, que nous marchions, que nous nous comportions comme des enfants. Et vous savez, le verset ne dit pas seulement que, parce qu'on pourrait comprendre de cette manière, mais dans le royaume des cieux, les gens ressemblent aux enfants. Mais non, le verset est clair dans Matthieu 19. Matthieu 19, le verset dit, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et donc appartient. Donc ce n'est pas seulement que le royaume des cieux est peuplé des gens qui ressemblent aux enfants, mais ces gens-là qui ressemblent aux enfants deviennent comme participants à ce royaume, comme chefs de ce royaume. C'est à eux. Et on avait expliqué récemment dans les études bibliques le mardi que le royaume des cieux, c'est le lieu d'habitation de Dieu, mais c'est aussi là où Dieu règne, c'est aussi le gouvernement de Dieu, c'est aussi les principes que Dieu utilise pour gérer le monde, c'est la gestion de l'univers par Dieu. Tout ça, c'est le royaume des cieux. Donc, quand on dit que le royaume des cieux est à toi, ça veut dire que toute l'armée de Dieu est à toi. Les principes de gestion de Dieu te sont révélés, donc ils deviennent à toi aussi. Donc, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Jésus dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à des enfants. Aujourd'hui, il y a une course, comme dans le monde, dans l'Église, il y a une course à vouloir être efficace, à vouloir être connu, à vouloir être fort, à vouloir être, bref, grand. C'est pourquoi les disciples, à un certain moment, en marchant avec le Seigneur, ils ont eu le même souci que dans le monde. Mais qui est le plus grand? Jésus a dit, mais ça, ce ne sont pas des soucis d'enfants, ça. Ça, ce sont des soucis d'adultes corrompus, qui cherche à un moment à dominer les autres. Un enfant cherche à jouer. Quand vous prenez un petit lionceau, il cherche à jouer, à s'amuser avec les feuilles, à manger, à boire le lait. Il pense à ça. Il est libre. Mais quand vous voyez un lion mâle, adulte, il cherche à dominer un troupeau, il cherche à contrôler un troupeau. Et Jésus dit, mais ça, ce ne sont pas des soucis d'enfants. Vous cherchez à être plus grand. Pourquoi? Soyez comme des enfants, en paix, en joie. Venez adorer, louer, glorifier Dieu tranquillement. Ne pas regarder, mais tiens, on va me voir. Tiens ceci, tiens cela. Non, soyez libres. Les enfants sont libres. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Voilà ce que dit le Seigneur. Il veut nous exhorter aujourd'hui à vivre comme des enfants. Et nous allons donner quelques caractéristiques des enfants. Nous commençons par la foi. Les enfants sont simples dans la foi. Ils ont une foi simple. Et ils croient que les adultes peuvent tout résoudre, notamment leurs parents, leurs professeurs, leurs maîtres à l'école. Ils croient qu'ils peuvent tout résoudre. Un jour, je me promenais... J'étais dans la voiture avec mon troisième enfant qui prend un catalogue. Il commence à dire, bon, papa, tu vas m'acheter ça, tu vas m'acheter ça et ça et ça. Moi, j'ai dit, mais petit, si tu savais. Mais lui, pour lui, il n'y a pas de problème. Papa a les moyens d'acheter le monde entier. Donc, tu vas m'acheter ceci, tu vas m'acheter ceci. Mais c'est une foi sans complications. Mais les adultes sont tellement choqués par des échecs du passé qu'ils n'ont plus de foi. Ils ne font qu'hésiter. Mais comment je vais finir mes jours? Comment j'aurai un travail? Comment? Mais bien-aimés, Dieu dit, soyez comme des enfants. Les enfants sont tranquilles, ils savent qu'ils vont manger. David va plus loin. Il dit que je suis comme un enfant, c'est vrai. Vous savez, un enfant qui dépend du lait que sa maman va lui donner. Donc, un tel enfant ne peut même pas imaginer que ce lait-là manquera un jour. Il sait que quand j'en aurai besoin, on m'en donnera. C'est tout. Mais nous, les adultes, eh bien, nous passons du temps à vouloir trouver comment Dieu s'y emploiera. Mais qui vous a demandé de trouver comment lui va faire? On nous demande tout simplement de croire et de le laisser faire. Et les enfants sont tranquilles. Ils croient et ils attendent. Voilà. C'est tout. Il croit et il demande. Bien aimé, pendant que je préparais cette prédication, je me suis dit, mais tiens, on a perdu des années en faisant, nous, des adultes, des prières avec des fois difficiles. Donc moi, j'ai dit, nos sujets de prière d'intercession, dorénavant, on va faire une équipe d'intercession d'enfants. Comme ça, eux, ils vont prier avec foi. Dieu va résoudre nos problèmes rapidement. Parce que nous venons avec nos problèmes dans l'intercession, dans la prière, on se complique. Ah, mais le juge a dit ceci. Ah, mais... Mais ça sera compliqué, les médecins ont dit. Mais les enfants n'ont pas ce temps-là. Il paraît que Dieu guérit. Ben, Dieu guérit nous, c'est tout. C'est ce que nous voulons. On va faire une équipe d'intercession avec les enfants. Comme ça, les sujets difficiles, on leur donne. Et on est sûr que Dieu va exaucer. Parce que la Bible dit quoi? C'est par la foi. À cause de la foi que Dieu agit. Si vous demandez en priant, vous devez croire. Et si vous croyez que vous allez vous le voir. Oh, nous, on a du mal à croire. Puisque les enfants, eux, n'ont pas du mal à croire, eh bien, les sujets, on va leur donner. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste des adultes compliqués, avec des rides. Il veut qu'on soit des enfants. Donc, même si on a 80 ans, tu es comme un enfant. Tu sais que Dieu va faire. Même si le professeur de technologie, le professeur de médecine, il te dit, mais non, c'est compliqué, il y a tel microbe qui se multiplie. Tu dis, non, Jésus a mangé les microbes à la croix, laisse-moi tranquille, bien-aimé. C'est tout. Jésus s'en occupera. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Jésus s'en occupera. C'est ça, bien-aimé. Nous avons besoin d'être comme des enfants dans la foi. Crois tout simplement ce qui est dit. Surtout que les enfants, eux, ils croient. Mais ils se trompent en croyant que nous, les parents, nous pouvons tout résoudre. Mais nous, on ne se trompe pas en croyant que Dieu peut résoudre. C'est vraiment la vérité. Donc, on a à avoir beaucoup plus de foi même que les enfants. Puisque nous, on ne se trompe pas. Dieu peut tout résoudre. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi discuter? Tout remettre entre ses mains et rester tranquille comme David. L'âme comme un enfant, c'est vrai. Tranquille. Mais vous savez que même s'il y a la guerre, l'enfant que porte sa mère, lui, ne sent même pas qu'il y a la guerre. Lui, il sent seulement le corps de sa maman, c'est tout. Tout le reste, ce n'est pas son problème. Il sait qu'il y aura ma nourriture chaque jour. Vous débrouillez-vous. Moi, j'ai ma nourriture. Et c'est cela, un véritable chrétien, c'est un enfant. Il ne s'inquiète pas. Il sait que Dieu, Jésus s'en occupera. Comment tu vas faire? Jésus s'en occupera. Ah non, mais là, tu es irresponsable. Soyons quand même, il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent, soyons quand même sages. Moi, j'ai dit, c'est faux. Ça, c'est la sagesse du monde. La sagesse de la Bible veut qu'on ait la foi. Quand tu as la foi, tu es sage dans la Bible. Quand les nouveaux chrétiens, il y a des nouveaux chrétiens qui disent, je connaissais un nouveau chrétien qui disait, moi, si quelqu'un se fait écraser par un train, je prierai pour sa résurrection. Moi, j'ai dit, tu as raison. Il y a beaucoup de chrétiens en tout qui disaient, non, sois sage. Mais moi, j'ai dit, mais non, quelle sagesse. Il a raison. Il a la foi que ce chrétien ressuscitera, cet homme-là ressuscitera. Il faut qu'il demeure dans cette foi-là. C'est ce que le Seigneur veut. Une foi d'enfant. Nous devons croire. C'est pourquoi nous prenons des directions mauvaises. Parce que nous n'avons pas la foi, comme les enfants. Nous nous compliquons, on se dit, mais non, cet homme-là, comme Marie, ne changera jamais. On a trop de raisonnements, on a vu trop d'échecs, trop de difficultés. Qu'on a du mal à être comme des enfants. Dieu veut qu'on soit comme des enfants. Les enfants ne connaissent pas les mécanismes. C'est ça qui leur donne beaucoup de foi. Ils ne savent pas comment les choses se font. Ils croient que peut-être qu'une voiture se fabrique derrière une maison. Ils ne savent pas. Donc pour eux, ce n'est pas compliqué de demander une voiture parce qu'ils ne savent pas comment ça se fait. Ils croiraient peut-être que ça s'achète comme du pain. Alors, ils vont demander sans problème. Mais nous, comme nous connaissons les processus connus nous ont rendu la foi difficile. Revenons à la simplicité des enfants. Croyons que Dieu va faire, puisqu'il a promis, puisqu'il a dit, et continuons, bien-aimés, persévérons dans notre marche avec le Seigneur. Les enfants vivent dans l'innocence. L'innocence ne veut pas dire qu'ils ne font pas de mal. Tout simplement, les enfants ne sont pas là à méditer. J'ai fait beaucoup de mal, j'ai fait beaucoup plus qu'un tel autre. Non, les enfants, bon, il y a des moments où ils ont, ils se rendent compte qu'ils ont mal fait et ils demandent pardon et ça passe. Ils ne sont pas là à faire le bilan à la fin de la journée. Aujourd'hui, j'ai fait autant de mal, autant de bien. Non, ils vivent dans l'innocence. Ils vivent comme Adam à peu près, puisque Adam était parfait, était bon, et il n'y avait pas de mal, mais les enfants ont du mal en eux. Mais ils vivent dans cette innocence-là. Adam ne savait pas s'il y avait le mal et le bien. Il ne savait pas. Il faisait le bien sans s'en rendre compte. L'un des problèmes d'Adam, c'est que quand il a commencé à se rendre compte du mal et du bien, c'est ce qui a fait qu'il est tombé dans l'orgueil. Parce que dès que tu te rends compte du mal et du bien, tu peux maintenant te mesurer, dire que tu es très bon, tu es plus bon que les autres parce que tu te rends compte de ce que tu fais. Tu te dis, ah oui, mais je fais beaucoup de bien. Et ça te donne l'orgueil et tu tombes encore plus gravement. Le Seigneur veut qu'on vive dans l'innocence. Donc quand tu fais le bien, tu ne t'en rends même pas compte. Tu vis dans le bien et c'est tout. Tu ne fais pas de calcul. J'ai fait 20 ans de vie chrétienne dans la pureté. Maintenant, je vais prendre une pause de 2 mois. Non, pas du tout. Tu ne te rends même pas compte que ça fait 20 ans que tu es converti parce que tu faisais le bien. Le bien, c'est le bien. C'est comme respirer, bien-aimé. On n'a jamais dit, ben tiens, j'ai beaucoup respiré. Je veux respirer un autre air maintenant, qu'on mette beaucoup d'azote. Mais bien-aimé, tu vas mourir. Hein? Non, tu continues toujours à respirer le même air parce que c'est bon. Tu ne te poses pas de questions. Mais pourquoi beaucoup tombent parce qu'ils ont quitté l'innocence? Ils sont dans la logique du bien et du mal. Donc, j'ai beaucoup aidé telle personne. Normalement, elle devrait m'aider de la même manière. Parce qu'ils sont dans la logique du bien et du mal. Ils mesurent, ils font des quantités. Voilà, telle personne prêche à l'église, chante à l'église. Donc, il devrait être comme ceci, il devrait être comme cela. Et donc, on est dans le jugement parce qu'on est dans la logique du bien et du mal. Or, le Seigneur veut qu'on vive dans l'innocence. Tu fais le bien, tu ne t'en rends pas compte parce que c'est ta vie, comme tu respires. Tu ne vas pas calculer que tu en as beaucoup fait ou tu en as peu fait. Tout simplement, tu es entre les mains du Seigneur. Vous savez, en général, ce qu'ils disent aux enfants qu'ils ont fait le mal, c'est nous les adultes. Donc, tu attends que Dieu te dise, par son Esprit Saint, tu as fait le mal. Tu demandes pardon, tu continues, tu ne calcules pas. Dès qu'on commence à calculer, l'orgueil va se manifester. Quand on va se rendre compte qu'après calcul, j'ai fait beaucoup de bien, j'ai fait 20 jours sans faire telle chose, c'est comme ça que beaucoup tombent, les gens qui veulent quitter certains péchés. Tu es lié par la colère. Après 10 jours, tu dis, mais ça fait 10 jours, je ne me suis pas fâché. Qu'est-ce qui s'est manifesté? L'orgueil. J'ai tenu bon. C'est l'orgueil. Et quand l'orgueil se manifeste, c'est comme la maladie. Tu es piqué dans un endroit, tout le corps s'affaiblit. Tu as un problème à la gorge, tout le corps devient faible. Et c'est comme ça. On veut quitter un péché, on a fait 20 jours, 45 jours, sans fumer. On se dit, ah, 45 jours sans fumer, victoire. Non. Quand tu fais cela, l'orgueil se manifeste. Et quand cet orgueil se manifeste, tu deviens faible. On va apprendre que le 55e jour, tu as fumé encore. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'orgueil qui s'est manifesté. 45 jours sans fumer, à chaque jour suffit sa peine. Gloire à Dieu, je continue ma vie normalement. Je ne fais pas de ces 45 jours un sujet de victoire. Je fais de Dieu ma victoire. Chaque jour, je vis dans l'innocence. Je dois être bon. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 3, ce que j'ai fait dans le passé, j'oublie. Je regarde en avant. Si j'ai fait beaucoup de bien dans le passé, j'oublie. Si j'ai fait beaucoup de mal dans le passé, j'oublie. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, c'est devant. Maintenant, je vis avec le Seigneur dans la pureté. Je ne compte pas, je ne calcule pas. Cependant, quand je fais le mal, le Saint-Esprit est assez puissant, est suffisamment grand, est suffisamment bon pour me dire que j'ai fait le mal, je demande pardon, je continue ma route. À force de calculer, on finit par juger les autres, on finit par critiquer les autres. À force de compter, on finit par se croire bon et parfois se croire mauvais, mais dans le mauvais sens, dans le sens où on sort de la Bible, parce que la Bible dit « tous ont péché ». Tu n'es pas plus mauvais que les autres, mais toi, tu commences à te haïr et te croire mauvais, finalement, plus que les autres. Ce n'est pas bon. En réalité, c'est de l'orgueil. Tu ne veux tellement pas reconnaître que nous sommes pécheurs, mais tu préfères t'enfoncer pour que tu sois comme un bon juge envers toi-même. Et c'est dangereux, c'est l'orgueil, parce que nous n'avons qu'un seul juge, c'est le Seigneur. Et si le Seigneur nous dit que nos péchés sont purifiés dans son sang, nous devons le croire et l'accepter. Et les enfants vivent dans cette innocence-là. Le papa dit qu'il est bon, il accepte. Il continue sa route. Le papa dit qu'il fait une erreur, il se rend compte, il demande pardon, il continue sa route. Il nous faut cette innocence. Nous devons quitter cette logique-là de raisonner, de réfléchir. Combien de péchés j'ai commis, combien ceci. Tout ça, c'est de l'orgueil et ce n'est pas bon. Vivons dans l'innocence, dans la logique du bien, sans s'en rendre compte. Et un autre élément par rapport aux enfants, ils sont spontanés, naturels. Ils sont naturels, ils sont spontanés. C'est ça, une des forces des enfants. Ils disent ce qui vient à leur cœur. Mais beaucoup de chrétiens freinent l'action de Dieu parce que quand l'Esprit veut faire, ils réfléchissent trop. Et souvent, on a reçu des mauvais conseils des anciens chrétiens qui nous ont dit, avant d'évangéliser, il faut faire ceci, il faut parler de telle manière, il faut parler de telle ou telle manière. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que l'Esprit Saint mettra à notre bouche ce qu'on dira. Donc, s'il y a des choses qui viennent dans ton cœur pour parler, tu parles. S'il faut dire à quelqu'un qu'il risque d'aller en enfer, tu lui dis. S'il faut dire à quelqu'un que Dieu l'aime, tu lui dis. C'est l'Esprit qui parle dans nos cœurs. Et les enfants sont spontanés. Aujourd'hui, on a reçu tellement des enseignements pour calmer les gens que beaucoup n'arrivent plus à évangéliser. Ils n'arrivent plus à chanter en public. Ils n'arrivent plus à adorer le Seigneur parce qu'ils réfléchissent trop. L'Esprit n'agit plus. Oh, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Où est la liberté des enfants de Dieu? Pourtant, un enfant est tranquille. Je vois comment le bébé crie. Même parfois, on est au culte. Tu es en train de prêcher, lui, il crie. Donc, il est tranquille. Il sait que crier, ça lui fait du bien. Ben, il crie. Voilà. Et nous, la Bible veut que nous soyons comme des enfants. Lorsque tu es pris pour prêcher, pour exhorter quelqu'un, tu le fais. Lorsque tu es touché pour donner quelque chose à quelqu'un, tu le fais librement. Beaucoup ont freiné la main de Dieu dans leur vie parce que trop de réflexions. C'est vrai que quand c'est quelque chose de très grave, qui nécessite la participation de d'autres personnes, c'est vrai, on doit exprimer ce qui vient dans notre cœur et les gens, par exemple, si on est marié, donc si ça nécessite l'accord ou bien l'avis du mari ou de l'épouse, donc on fait part, mais on ne doit pas cacher. On doit être spontané, naturel. Je sais que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, déjà en présumant de la réaction de leur mari ou de leur femme, ils n'osent même pas parler, quoi. Donc, s'ils donnent l'idée qui vient de leur cœur, ils savent qu'ils vont recevoir une baffe. Donc, d'un côté à l'autre, eh bien, ils préfèrent pas recevoir des baffes. Ils se taisent et ils tuent l'œuvre de Dieu en eux. Parfois, Dieu va te mettre à cœur qu'il faut donner quelque chose de la maison à quelqu'un d'autre. Mais tu dis, là, si j'ouvre ma bouche pour dire ça, la baffe que je vais recevoir de ma femme, personne ne pourra me consoler. Donc, tu préfères te taire. Voilà. Le monsieur, il est là avec ses bonnes idées dans le cœur. Mais un enfant est tranquille. Un enfant dira tout de suite, voilà. Je veux ça, il le dit. Il est tranquille. Maintenant, si les autres ne veulent pas, ils le diront aussi. Mais lui, il a dit ce qui était dans son cœur. Il faut être spontané, naturel. L'Esprit Saint agit naturellement. Tout ce qui est calcul n'est pas de Dieu. La Bible dit tout ce qui est doute n'est pas de Dieu. Tout ce qui est raisonnement qu'on calcule, c'est compliqué. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. La Bible est claire. Soyons spontanés, naturels comme les enfants. Ne cherchons pas à faire les Confucius dans l'église. Dans l'église, il n'y a pas les Confucius, faire les sages chinois. Non, bien-aimés. Dans l'église, c'est la sagesse du Saint-Esprit que le Seigneur lui-même donne. Il a lui-même dit à l'instant même. Donc ça veut dire que ce n'est pas une sagesse qu'il faut calculer. Il nous a prévenus. Ne méditez pas ce que vous allez dire quand on va vous amener dans les tribunaux. Ne vous créez pas votre propre sagesse. Faites-moi confiance. À l'heure même, je vous dirai ce que vous avez à dire. Il y a des moments où je participe à des débats sur la Bible. Quand le débat finit, je me pose moi-même la question, mais qui m'a donné ces réponses-là? Donc, comment ces réponses-là sont venues? Je n'ai même pas réfléchi. Donc, quand la personne pose la question, la réponse vient à l'instant, je donne. Quelqu'un qui est là va croire que j'ai été puisé quelque part, mais le Saint-Esprit agit. C'est une réalité. Ça ne doit pas nous empêcher à nous former en lisant la Bible, mais on lit la Bible comme une nourriture. Et à force de la lire comme une nourriture qui nous fortifie, qui nous guide aussi comme une lampe, le jour où le Saint-Esprit veut utiliser cette parole qui est en nous, elle est déjà dedans, il peut l'utiliser. C'est ça, bien-aimé. Donc nous devons vraiment être spontanés et laisser le Seigneur faire. Un autre élément qu'on retrouve chez les enfants, ils sont remplis de vie. Un enfant, c'est la vie. Vous allez voir les adultes. Ils sont là, costume, cravate, robe spéciale, un peu comme ça, en train de scruter l'entourage, quelle tenue faire, quelle position avoir. Il y a même des positions, la façon de manger. Un enfant va prendre le pain, il va mettre dans sa bouche. Vous cherchez de... Ah oui, mais la tradition vient qu'on mette les deux mains comme ça. Il n'a pas ce temps-là. Il voit le biberon, il avale. Il est tranquille. Il a la vie. Ce qui importe, c'est manger. Vous voulez mettre autre chose, lui mange. Continuez avec vos choses. Bien-aimés, les enfants, c'est la vie. Quand tu as un enfant, quelque part, on sent que ça bouge. Mais Jésus dit, mais il faut être comme des enfants. Vous êtes là à trop réfléchir. Moi, j'aime quand l'adoration, ça atteint tel niveau. Adore Dieu tranquillement, bien-aimé. Comme on m'envoie parfois des emails, on me dit, tel adorateur, chanteur américain. Moi, j'ai dit, non, toi-même adore Dieu. Les enfants n'ont pas cette complication-là. Que la guitare a été réglée de telle manière, non. L'enfant chante parce qu'il est dans la joie. Aujourd'hui, ce n'est plus la joie qui nous pousse à chanter, c'est la musique qui veut nous pousser à chanter. Oh, est-ce que David avait les mêmes instruments que nous? Pas du tout. C'est la joie du Seigneur qui doit te pousser à chanter. J'aime mon frère dans le sud, de la croix. Il ne sait pas chanter, hein. Mais quand tu chantes, c'est la vie, quoi. De la croix, la grâce coule. J'essaie de mal chanter, mais je n'arrive pas. Mais lui, quand il chante, ce n'est pas vraiment bon, mais c'est beau. Voilà. Musicalement, c'est raté, mais spirituellement, c'est réussi. Aujourd'hui, on veut réussir musicalement. Et puis, on dit que c'est le Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit est là. C'est faux. Nous, quand on écoutait les Bob Marley, on bougeait aussi. Hein. Ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. On dit, quand ce chantre-là chante, je frissonne. Mais les gens qui écoutent Michael Jackson aussi frissonnent. Les gens qui écoutent les John Lennon frissonnent aussi. Ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. C'est le goût de la musique qui te fait frissonner. Pour chanter le Seigneur, tu n'as pas besoin d'une bonne musique. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du changement dans ta vie, de la joie. Et ça va s'exprimer. C'est très important, bien-aimé. J'ai dit souvent que moi, j'ai été touché le jour où j'ai entendu « Oh, vous qui n'avez pas la paix ». J'avais 19 ans. Les gens aujourd'hui disent « Mais il faut faire une musique pour les jeunes, c'est faux. Il faut faire une musique dans le Saint-Esprit. » Une musique avec la foi, avec la vérité. Même quand quelqu'un est jeune, moi j'avais 19 ans, j'ai été touché. Ça ne faisait pas partie des musiques que moi j'écoutais. Hein. J'écoutais des choses beaucoup plus dangereuses. Mais quand j'ai entendu ça, mon cœur a bougé. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. C'est la vie. L'enfant, lorsqu'il y a l'enfant, il y a la vie. C'est la vie. Trop de polémiques, on n'a pas le temps de faire des polémiques. Nous, on prêche, on chante, on loue le Seigneur. Quelqu'un qui veut faire les polémiques, on le laisse. L'apôtre Paul dit, laisse-les dans des discussions vaines. Un serviteur de Dieu n'a pas à se quereller. Entrez dans les discussions vaines. Bien-aimés, ne perdons pas notre temps dans des discussions vaines. Il y a des moments où on doit faire des éclairages par rapport à la Bible. On donne 30, 20 minutes, un temps pour la discussion. Dès que ce temps-là est passé, on trouve qu'on perd du temps. On dit, écoute, d'accord, continuez avec votre chemin. Nous, on continuera avec notre chemin. La vie fera la différence. La vie montrera qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Ce ne sont pas des doctrines bien ficelées qui montrent qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. C'est la vie. Là où il y a Jésus, il y a la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qui caractérise un enfant. Il a la vie. Ce n'est pas un savant. Ce n'est pas un professeur, mais il a la vie. Et nous voulons avoir la vie. Et la vie, ce n'est pas seulement bouger. La vie, c'est la pureté. C'est la sainteté, la ressemblance à Jésus. C'est ça la vie. Et si nous ressemblons aux enfants, nous manifesterons la vie. Il y a la dépendance, bien-aimé. L'enfant est dépendant d'un tuteur, de sa maman. L'enfant est dépendant. Ça, c'est une caractéristique que nous refusons, la dépendance. Nous voulons l'indépendance. Nous sommes des traîtres parce que Dieu nous a créés et nous, on veut l'indépendance. Ce n'est pas normal. On devrait se soumettre à Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Dire, Seigneur, puisque tu m'as créé, tu sais comment je dois fonctionner. Alors fonctionne avec moi. Conduis-moi. Je veux dépendre de toi. Parce que tu connais des choses que je ne connais pas. Un enfant n'a pas honte d'être dépendant. Et d'ailleurs, c'est de cette dépendance-là que se trouve sa force. Un enfant qui s'accroche à sa maman est dépendant. Mais quand sa maman est là et qu'il s'accroche à elle, il se sent bien. Il est libre. Notre liberté viendra de la dépendance à Dieu, de la dépendance à sa parole, et non pas d'une indépendance parce qu'on aurait une certaine puissance, une certaine connaissance. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, la connaissance donne l'orgueil, mais l'amour donne la vie, édifie. L'enfant, c'est la vie. L'enfant, c'est la dépendance, et cette dépendance-là, c'est la simplicité, c'est l'humilité. Il s'accroche à sa mère. Et en s'accrochant, il se sent en sécurité. J'ai souvent donné cet exemple. Un enfant de 3 ans, quand il est dans les bras de son père, il peut faire des gestes pour même en essayant même de se laisser tomber. Il sait que son père va le rattraper, mais il ne fera pas les mêmes jeux avec n'importe qui. Parce qu'il sait qu'avec son père le rattrapera. Il est libre donc de faire des sauts périlleux, il sait qu'on le rattrapera. Donc au fait, cette dépendance-là produit de la liberté. Alors que notre indépendance produit quoi ? De l'esclavage. Tu veux être indépendant de Dieu, tu deviens dépendant de la cigarette. Tu veux être indépendant de Dieu, tu deviens dépendant d'une fille ou d'un garçon qui bouge ton cœur. Donc dès que tu le vois, tu trembles. Avant de sortir de chez toi, quand tu penses à lui, tu arranges bien les cheveux alors que tu étais tranquille. Tu fais marche arrière, tu vas au miroir, tu arranges bien. Tu choisis les vêtements en fonction de l'épaté. Peut-être que lui regarde ailleurs même. Voilà. Donc tu deviens esclave. Esclave de l'Olympique de Marseille. Alors que les joueurs sont en train de se mettre plein les poches. Toi, tu es là acheter les maillots, tu achètes. Mais oui, mais il ne te connaît même pas. Là-bas, c'est quoi les joueurs? Ils ne te connaissent même pas. Les Niang ou. Ils ne te connaissent pas. Toi, tu deviens esclave. C'est ça. Refuser la dépendance à Dieu te donnera l'esclavage ailleurs. Que tu le veuilles ou pas. Tu te crois libre, en réalité, tu es esclave. Regarde-toi. Combien tu tiens aux vêtements de marque. Tu es esclave. Oh non, je suis libre. Tu n'es pas libre, tu dépends de la mode. Tu n'es pas libre, tu dépends de ton argent. Tu n'es pas libre, tu dépends de ton corps. Ton corps t'a rendu esclave. Réfléchis, reviens à la dépendance à Dieu. Laisse Dieu te donner le bonheur. Dis, Seigneur, en dépendant de moi-même, je cours et c'est sans fin. Mais en dépendant de toi, il y a la solution qui est là. Comme un enfant, David nous a dit, comme un enfant sevré. Amen. La simplicité, bien-aimée. Un enfant est simple. Simplicité ne veut pas dire bête. Simplicité veut dire tout simplement que il voit les choses d'une manière claire. Il s'arrête à ce que lui, il peut comprendre. Ce qu'il ne peut pas comprendre, ce n'est pas son problème. C'est ça la simplicité. Il s'arrête à ce qui est compréhensible, ce que lui, il peut saisir. Ce que lui, il peut saisir, il s'en contente. C'est ce que David nous dit dans Psaume 131. Il dit, je ne m'occupe pas des choses qui me dépassent. Je ne m'en occupe pas. Je suis comme un enfant sevré. Donc, combien de gens dans l'église, je les vois très compliqués. Comment il faut prier, comment il faut faire ceci. Ils cherchent des prières spéciales, ils cherchent des choses spéciales. Mais non, il faut être simple. Marcher avec Dieu chaque jour, à chaque jour suffit sa peine, c'est tout. Quand je suis en train de corriger avec un bien-aimé, les témoignages, donc un livre va être sorti sur les témoignages des gens qui se sont convertis. Quand je lis ces témoignages, je suis comme plongé, comme a dit le frère, dans une douche, quoi. Tu te sens bien. Parce que c'est les conversions. La conversion, c'est simple, c'est beau, c'est la vie. Tu te sens bien. Et quand je lis ça, j'ai dit à l'évangéliste Jean-Yves, j'ai dit non, moi on ne mourra pas avec les histoires de succès, de pouvoir, de vouloir épater. C'est tellement beau la simplicité avec le Seigneur. Quand tu vois, tu lis un témoignage, quelqu'un dit qu'il fumait beaucoup, mais quand tu vois son visage aujourd'hui, tu ne peux même pas imaginer qu'il fumait. Moi, pour moi, c'est plus extraordinaire que quelqu'un qui remplit les stades. Rien que voir le visage de quelqu'un qui a Jésus, et je lis son témoignage, je vois comment sa vie était. Quand je vois son visage, je dis, mais c'est pas possible. Moi, ce miracle-là est plus beau que tout. Vous allez chercher, vous cherchez à remplir les stades, chercher à chanter comme Maggie Blanchard, c'est votre problème. Moi, je cherche seulement à voir des conversions. Quand je vois des conversions, mon cœur est en paix. Quand je vois Dieu, au fait, les conversions, c'est quoi? C'est Jésus dans sa fraîcheur. Parce que les vieux chrétiens, c'est Jésus un peu dans... Jésus un peu caché par des vêtements. Mais les conversions, c'est Jésus dans sa fraîcheur, en direct. Et c'est beau, la simplicité. J'ai dit, quand j'ai lu ce témoignage, j'ai dit, dorénavant, tout ce qui est compliqué pour moi, je prends, je jette. Moi, ça sera la simplicité. Les conversions, c'est tellement beau. C'est tellement simple. Tout ce qu'on cherche après, être quelqu'un de fort, faire des exploits, je n'ai même pas le temps de les chercher. Je sais que si Dieu veut le faire avec moi, il le fera. Est-ce que Daniel avait décidé de se faire enlever, de se faire amener à Babylone? Est-ce qu'il avait décidé de se faire mettre dans la fosse au lion pour faire cet exploit-là? Est-ce que Joseph avait décidé lui-même, bon, on me vendra, on me mettra dans un puits, on m'achètera, et puis quelqu'un, et puis j'irai en prison, et puis je deviendrai premier ministre? Non, il était dans la simplicité. Il a eu un rêve. Oh tiens, j'ai un rêve. Il va dire, papa, j'ai rêvé ceci. Mes frères, j'ai rêvé cela. Il était dans la simplicité, naturelle, spontanée, vivant. Et j'ai rien que cette vie-là, c'était la vie de Dieu. Et ça l'a amené à devenir premier ministre par des circonstances. Mais lui n'a jamais décidé cela. Pensait-il aller en Égypte? Pas du tout. Pourquoi chercher les postes? Pourquoi chercher qu'on soit valorisé? On perd son temps. Aimons le Seigneur. Vivons comme des enfants. Le Seigneur, s'il a un projet avec toi, c'est lui qui a un projet avec toi. Il dit dans l'évangile de Jean, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, puisque c'est lui qui nous a choisis. Mais il réalisera son plan en nous. Pourquoi nous-mêmes chercher à être des grands pasteurs, des grands apôtres, je ne sais quoi? Aimons, vivons comme des enfants. Et ce que le Seigneur a prévu se fera. Soyons comme des enfants. C'est tout, bien-aimé. Le Seigneur mettra des gens qui nous aideront sur notre route. Si on est chanteur, il mettra des gens qui nous aideront. Si on est instrumentiste, il mettra des gens. Si on est chrétien, il mettra des pasteurs pour nous aider. Mais nous, on ne doit pas chercher à devenir extraordinaire. Nous, on ne doit que chercher le Seigneur. Vivre comme des enfants. À chaque jour suffit sa peine. Et le Seigneur mettra les gens qu'il faut pour nous faire de nous des grands chanteurs. Des grands chanteurs en son sens, à lui bien sûr, pas en sens du monde. Dans le sens où peut-être notre voix sera beaucoup plus améliorée. Mais c'est le Seigneur qui fera ça. Bien-aimé, c'est important d'être simple. L'enfant est simple. Soyons simples. Vivons simplement. Ne nous compliquons pas. Tout ce qui complique la tête, ce n'est pas de Dieu. Dieu est bon. Moi, je n'ai jamais vu un parent donner une boîte de conserve à son fils de 4 ans. Mange. Jamais. Lui-même, il ouvre la boîte de conserve, il met dans une assiette, il prépare, il donne à son fils une assiette avec du pain, tout ce qu'il faut. Donc, lui n'a qu'à mettre sa main et envoyer où ? Dans la bouche. Mais quand tu te compliques, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Tu as affaire à un autre maître. Parce que le Père que nous connaissons, l'Éternel, ne peut nous donner qu'un plat mangeable. Il dit, si vous qui êtes mauvais, vous ne donnez pas un serpent à vos enfants quand ils vous demandent du pain, à combien plus forte raison, moi, je donnerai des choses spirituelles aux gens que j'aime. Luc 11, c'est là-bas, bien-aimé. Soyons simples. Soyons tranquilles. Quelque chose te dépasse, mais tu recommandes ça à Dieu dans la prière. Ce n'est plus ton problème. Toi, tu continues ta vie allègrement. Une maladie que tu ne comprends pas bien, mais quand nous on apprenait qu'il y a la grippe, ah, grippe, ah, moi j'ai dit, nous on va prier que la Normandie ne soit pas touchée. Oh, mais non, mais c'est prévu telle épidémie, il y aura, mais ce n'est pas mon problème, c'est que les faux médecins la prévoient. D'ailleurs, ça a échoué. Donc, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que je sais que Dieu est tout puissant pour freiner cette épidémie, que ma région ne soit pas touchée. Et j'ai dit bonjour à tout le monde. Donc si tu tousses, je passe à côté de toi tranquillement. Parce que Dieu est là. Les gens vont dire, mais oui, quand même, il faut prendre au sérieux les mesures. Continue à prendre au sérieux. Moi, je prends au sérieux Dieu. Alléluia. Je prends Dieu au sérieux. J'ai prié pour que ça n'atteigne pas notre région. Eh bien, on va continuer à prier que notre région soit préservée. Car la Bible dit, une ville prospère par la bénédiction des hommes droits. Voilà, nous allons appliquer la Bible comme des enfants, avec simplicité. Amen. La paix, les enfants ont la paix. Ils sont tranquilles, bien-aimés. Ils sont tranquilles. Dès que tu n'as pas la paix, sache qu'il y a un problème. Il y a un problème. Les enfants ont la paix. Et pour finir, ils ont l'humilité et cette humilité les conduit à adorer facilement. Un enfant va danser tranquillement. C'est tout. Il va jouer au prédicateur tranquillement. Il est dans la joie, il est tranquille. Nous avons vu comment David a dansé dans la Bible, comme un enfant. Mais bien-aimé, combien osent danser aujourd'hui? Je ne dis pas que dimanche prochain que tu danses par la chair, mais commence à prier que le Seigneur t'aide à danser. Amen. Tu as trop prié pour être un bon prédicateur. Maintenant, prie pour être un bon danseur. Le Seigneur cherche les bons danseurs aussi. Il cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Il ne cherche pas des bishops qui vont s'asseoir dans des trônes devant les églises pour prêcher. Il cherche des enfants. Et lui va faire de ces enfants-là des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des chantres. Tout pour sa gloire. Tout pour lui, par lui et pour sa gloire. Amen. Nous soyons des enfants. Dieu fera de nous ce qu'il a prévu. Demandons, Romains 12, soyons attirés par ce qui est humble. Et ne soyons pas attirés par ce qui est élevé. Soyons attirés par ce qui est humble. Qu'est-ce qui est humble? C'est danser. Sois attiré par ça. Tu veux comprendre toute la Bible? Commence par danser. Tu vas bien comprendre la Bible. Parce que celui pour qui tu vas danser, c'est celui qui explique la Bible. Ce n'est pas en lisant plusieurs livres que tu comprendras la Bible. C'est en servant celui qui explique la Bible, celui qui a écrit la Bible. Quand tu le sers comme un enfant, lui t'explique la Bible. Tu n'as pas besoin de lire 20 livres. C'est ça, bien-aimé. Revenons à la nature d'enfant. La maturité, ce n'est pas il n'y a pas de contradiction entre maturité et enfant. La maturité, c'est beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience, quand on sait l'utiliser. Mais cette maturité-là ne doit pas nous empêcher de rester des enfants vis-à-vis du Seigneur. On peut connaître beaucoup, on peut avoir
connu, fait beaucoup d'expériences dans la vie et ça nous a rendu sages, matures. Mais cette maturité, au contraire, au lieu de nous amener à se croire fort, ça doit nous amener à une leçon, à la leçon suivante. Eh bien, Dieu est la solution pour tout. Qui est arrivé à cette conclusion après beaucoup de maturité? Dans la Bible, les lecteurs de la Bible, qui est arrivé à la conclusion? Lui qui avait beaucoup de maturité, il est arrivé à la conclusion que ben, c'est Salomon. Hein? Il était plus sage que tous les rois de la terre, plus sage que tout le monde. Son livre, l'Ecclésiaste, finit par quoi? Tout n'est que vanité. Tout est vanité et poursuit du vent. Mais le plus important, c'est quoi? On va lire Ecclésiaste 12. Il avait beaucoup de sagesse. On arrive au 15, au verset 15. 12, 15. On lit rapidement le 10 et puis on saute, on va au 15. « Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. » On continue verset 11. « Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, pardon, il a encore enseigné la science au peuple. Et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture. » Ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Après avoir été sage, étudié, dit de belles phrases, il arrive à la conclusion, il faut craindre que Dieu croit. Le reste n'est que poursuite du vent. Le reste n'est que vanité. Il faut craindre Dieu. Donc il faut être comme un enfant, suivre Dieu comme un enfant. Malgré tout ce que tu peux avoir comme expérience, comme connaissance, suivre Dieu comme un enfant, comme David l'a fait, comme Joseph l'a fait, comme les apôtres l'ont fait, comme des enfants. Ils ont suivi le Seigneur, accrochés au Seigneur comme un bébé, comme David le dit, comme un enfant, je suis accroché au Seigneur. Un problème survient, même si tu gères 1 000, 10 000 personnes, qu'est-ce que toi tu fais? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? C'est tout. Il ne faut pas vouloir faire le grand PDG, faire le grand pasteur. Non, tu es un enfant vis-à-vis du Seigneur. Le problème arrive. Vous cherchez telle chose qui va coûter des millions. Eh bien, Seigneur agit. C'est le Seigneur qui est notre papa. On s'accroche à lui. C'est ça, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à ça? C'est tellement facile. Mais ce qui nous freine, c'est l'orgueil. On ne veut pas dépendre. On ne veut pas être comme un enfant libre, simple. On veut se compliquer. Parce que dans la complication se trouve l'estime personnelle. Dans la complication se trouve, quand il y a la complication, c'est là qu'on peut sélectionner les forts et les moins forts. Mais quand il n'y a pas de complication, tout le monde est bon. Je me souviens des interrogations en classe. Quand nous tous, on avait 10, ça ne donnait à personne de la joie. Alors que vous tous, vous avez eu la plus haute note, 20 sur 20. Mais aucun n'est dans la joie. Puisque tout le monde a eu 20. On aurait bien aimé avoir 20, les autres 14, 11, 9, 4, 2. Mais quand tout le monde a 20, il n'y a pas de joie. Et on cherche à compliquer les choses. Comme ça, il y aura une sélection. Nous, on sera peut-être le cinquième. Acceptons les choses simplement, bien aimé. Des enfants, c'est tout. Et quand on va faire la proclamation, on a le premier de classe, tout le monde lève la main. Ah, là on est bien. Ne cherche pas à être le premier. Jésus dit, quand tu entres quelque part, mets-toi à la dernière place. Nous sommes tous premiers en Jésus. C'est simple. Ne cherchons pas à être les meilleurs. Soyons des serviteurs. On est parti en évangélisation. Et on était en équipe de deux. Et la personne avec qui j'étais en équipe, elle a dit, oh, j'avais prié que Dieu me donne un enseignant. Dieu m'a donné le pasteur en équipier. Mais bien aimé, quand on a commencé à évangéliser, je peux vous dire que moi, je n'ai même pas eu de phrases à dire. Hein. Je ne comprends. La personne qui a été enseignante, c'est mon équipière. Hein. Elle a dit des choses que moi, je n'aurais pas pu dire. J'ai dit, mais c'est Dieu qui agit, ce n'est pas le pasteur. Parce que là, on est parti. Si on devait mesurer la performance, moi, j'ai été très peu performant. C'est l'équipière qui a été beaucoup plus performante, bien aimé. C'est la grâce de Dieu. C'est l'action de Dieu. Dieu est bon. Il n'y a pas de premier. Nous sommes tous ses enfants. Il nous aime. Ne cherchons pas à être l'enfant chéri. Acceptons que les autres soient des enfants chéris. Moi, j'aime même être le garde du corps. Si Dieu disait aujourd'hui, bon, je m'organise. Moi, je dis, Seigneur, moi, c'est la sentinelle. Pendant que tu fais la fête avec les autres enfants, moi, à l'extérieur, contre l'ennemi. Peut-être qu'il ne viendra jamais, mais j'aime le boulot de garde du corps, sentinelle. Les autres, s'ils veulent être des présidents, c'est leur problème. Nous, c'est les gardes du corps, sentinelles vigilantes. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner sa vie pour les autres qu'en profiter des autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Soyons des enfants bien-aimés. Nous allons clôturer en lisant Apocalypse au chapitre 2. Soyons des enfants dans le Seigneur. Quand est-ce qu'on l'a été? C'est quand on s'est converti. Mais après, l'expérience... Des envies nouvelles viennent, on perd la nature d'enfant, on entre dans une logique d'adulte, dans une logique de comparaison, dans une logique de comme on dit dans le langage aujourd'hui, de réalisation personnelle. On perd le premier amour. Nous lisons Apocalypse au chapitre 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Cette église-là était parfaite, humainement parlant. Elle était dans la persévérance malgré la souffrance. Elle était dans les prières, dans les œuvres. Il lui dit, je connais tes œuvres. Donc, les œuvres de cette église étaient bonnes en termes de prières, de paroles. Et ils sont partis loin, jusqu'à confondre les faux apôtres. Il n'y a pas beaucoup d'églises aujourd'hui qui osent confondre les faux apôtres. Et ils l'ont fait. Troisièmement, ils ont persévéré malgré la persécution. Donc on peut dire que c'était une église parfaite. Mais Jésus dit, mais tout ça est fait, mais dans une logique d'adulte. Moi, ce que je veux, que vous reveniez au premier amour. Quand vous faisiez les choses comme des enfants, sans intérêt, dans la joie, comme j'ai dit, dans l'innocence, sans calculer, je suis bon, je marche dans la sainteté. Non, tu ne calcules même pas si tu marches dans la sainteté ou pas. Toi, tu marches avec Dieu. Et si tu commets un péché, Dieu te parlera, tu te demanderas pardon, tu continues ta voie, tu ne calcules pas le nombre de tes exploits. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est Dieu. Tu marches avec lui, un point, c'est tout. Tu respires l'éternel. C'est tout, bien-aimé. Cette église avait perdu le premier amour. Et Dieu dit, il faut que tu te repentes. Tu es devenu professionnel. Moi, je ne cherche pas les professionnels. Je cherche des enfants. C'est ce que Dieu cherche. Des enfants. Des gens qui vivent comme des enfants. Libres. Qui ne se compliquent pas la tâche. Dieu dit que tu vas sauver la Normandie. Mais crois, c'est tout. Prie. Tu ne vas pas faire des calculs. Dieu te révèle telle chose, quoi? Bien, mais nous connaissons des gens qui ont dit, pasteur, avant de venir dans l'église, Dieu m'a montré votre vestibule en vision. Moi, j'ai dit, d'accord, ben, nous, on n'a pas eu de vision avant d'être là. Mais bon, on est là. Une année après, la même personne qui avait vu le porte en vision, que Dieu lui a montré que c'est son église, une année après, elle a été malade, vous ne l'avez pas appelée. elle quitte l'église. Oh, mais toi, tu avais vu des visions. Maintenant, tu quittes l'église. Mais c'est nous, on n'avait pas vu des visions. C'est toi qui as vu. C'est que la nature d'enfant n'est plus là. Un enfant, c'est quelqu'un qui marche tel qu'il a vu les choses. C'est mon père, c'est mon père. C'est mon oncle, c'est mon oncle. C'est tout. C'est mon papy, c'est mon papy. Il n'a pas le temps de remettre en question ce que lui-même l'a observé. Et beaucoup ne sont pas comme des enfants devant Dieu. Ils ne sont pas conséquents avec ce que Dieu leur a dit. Dieu leur a dit ceci, ils vont changer 6 mois après. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas la nature d'enfant. Bien-aimé, il faut avoir la nature d'enfant. C'est ce qui fait de nous des princes dans le royaume de Dieu. Les grands de la Bible ont été comme des enfants. Ils n'ont pas discuté devant Dieu. Ils se sont accrochés à lui comme des bébés. Les fous qui ont voulu faire les grands, eh bien, ils ont mal fini. Mais ceux qui sont restés petits, ceux qui criaient à Dieu comme des enfants quand il y avait des problèmes, ils ont vu la délivrance du Seigneur. Ne te complique pas la tâche. Tout ce qui est compliqué n'est pas de Dieu. Dieu est dans la simplicité. La relation qu'il veut avoir avec toi, c'est une relation de simplicité. Tu as un problème, pose ton problème comme un enfant. Crois comme un enfant. Dieu est tout puissant pour faire résoudre. Ne te complique pas. Nous allons prier que le Seigneur nous aide. Tout n'a pas été dit, mais le peu qui a été dit, nous prions que cela serve. Que nous puissions être des gens vraiment de paix, de joie. Comme l'enfant sevré, comme nous dit le roi David. Et la conséquence, c'est que c'est nous qui allons gérer. Le royaume de Dieu est à nous. Il dit, petit troupeau, votre Père a choisi de vous donner le royaume. Aux enfants, aux gens qui ressemblent aux enfants. Amen. Merci Père de nous aider à nous humilier. Et à te suivre comme des enfants. Merci Père de nous aider à t'écouter et à nous accrocher à toi comme des enfants. Oh Seigneur, il y a tant de complications lorsqu'on veut faire le professionnel, lorsqu'on veut faire le grand, lorsqu'on veut faire l'adulte. Nous voulons être dans la sécurité de la dépendance à toi Seigneur. Nous ne voulons pas viser l'indépendance qui élève l'homme face à lui-même, vis-à-vis de lui-même. Nous voulons la dépendance qui peut nous rabaisser vis-à-vis des hommes, mais qui nous donne la vraie liberté. Parce que dépendant de toi, nous pouvons faire des sauts périlleux, tu vas nous rattraper, Seigneur. Nous pouvons faire des exploits avec toi, tu vas nous rattraper. Nous pouvons risquer avec toi, tu vas nous rattraper en cas de problème, Seigneur. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas réfléchir à des bruits qu'on entend à gauche, à droite. Nous ne voulons pas raisonner par rapport aux critiques, par rapport à ce que aussi nous pouvons percevoir comme des critiques, mais qui n'en sont pas, Seigneur. Nous voulons tout simplement être comme des enfants, recevoir ce que tu as prévu pour nous, nous humilier, nous repentir au bon moment, Seigneur. Te faire confiance pour les problèmes qui semblent nous dépasser, Seigneur. Nous voulons nous contenter de ce que nous pouvons toucher, saisir. Et tout ce qui nous dépasse est à toi. Selon qu'il est écrit, ce qui est révélé est pour nous, ce qui est caché est pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus, viens, Seigneur, nous aider à marcher dans cet esprit-là, d'humilité. À toi la gloire, Seigneur. C'est toi, Jésus, qui es notre sagesse.